bonjour à tous nos auditeurs. Vous écoutez la web radio du LFB. Au micro, Vladimir, David et Auguste. C'est le moment de notre grand direct AEFE. À cette occasion, nous avons concocté un programme culturel, informatif et artistique autour des médias et de notre pays d'accueil.
Espagne et Catalogne.
Y'a quoi la carte aujourd'hui ?
Rencontre avec Renaud Lebert, Eugénie Bourlet et Christian Thur. Nous parlerons des médias sous forme d'interview en compagnie d'Almudena et de Claudia.
Bonjour et merci pour cette invitation. Alors je suis Renaud Lebert, je suis professeur d'ESEEG, j'ai 55 ans, marié, je suis en Espagne depuis 2004, marié en espagnol et mes trois enfants sont franco-espagnols.
Bonjour Eugénie Bourlet, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Bonjour, déjà je travaille actuellement au lycée français en tant qu'assistante d'éducation. J'ai fait des études entre autres de lettres et de journalisme et j'ai travaillé comme journaliste dans plusieurs médias parisiens. J'étais aux Un Rock en stage et au magazine littéraire pendant un an et demi. Je suis passée aussi dans un magazine qui s'appelle Relief, qui est une revue de géographie entre art et sciences, qui est semestrielle. Et puis l'année dernière, je me suis installée en Espagne. J'ai travaillé comme journaliste freelance et j'étais remplaçante au lycée français de Valence. Et depuis septembre, je suis ici. Et je continue à travailler comme journaliste à mon compte, c'est-à-dire que je fais des piges. Donc, je suis pigiste pour lire Mediapart, avec qui j'ai fait des émissions de radio aussi, entre autres.
Bonjour Monsieur Thur, pourriez-vous vous présenter ?
Je suis professeur de lettres au lycée français de Barcelone. Je suis très intéressé par les questions d'éducation aux médias et à l'information. J'ai l'habitude de faire travailler les élèves de mes classes sur ces thèmes. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'amener une de mes classes au Festival international de photojournalisme de Perpignan cette année pour faire découvrir les photos des photojournalistes à mes élèves et les faire travailler, les faire réfléchir sur les grandes questions qu'ils proposent à nos yeux.
Pourriez-vous nous citer un média que vous consultez régulièrement et pourquoi ?
Alors, je n'ai pas un seul média, hein. J'aime bien consulter plusieurs sources, hein. Je crois que c'est assez important. J'aime bien lire El País, hein, qui est un très bon journal, Le Monde, les radios, hein, France Inter et aussi les radios espagnoles comme M80 ou Radio 13.
Il y a des médias que je suis effectivement comme Mediapart, par exemple, qui est un média que j'aime bien parce qu'ils vont décliner l'information sur plein de formats. C'est-à-dire qu'ils font des vidéos et des émissions enregistrées, ils font des podcasts et de la presse écrite, évidemment, donc des articles en ligne.
Plus qu'un média que je consulte, c'est un média que j'écoute. Je suis un grand consommateur de radio. J'écoute des radios en français, les radios de Radio France. Ça peut être la chaîne Move pour écouter des musiques variées. Si je veux avoir une information continue, ce serait plutôt France Info. S'il s'agit d'informations plus générales ou généralistes, on peut écouter d'une oreille distraite, ce serait France Inter. Et quand je veux me cultiver, ce que je vous conseille d'ailleurs comme média, j'écoute France Culture. Et il y a des émissions qui correspondent tout à fait aux centres d'intérêt ou aux programmes des élèves de lycée. La radio, c'est un bon moyen pour apprendre plein de choses.
Quel type d'informations aimez-vous écouter ou lire ?
L'information est assez variée, hein. Naturellement, en tant que prof d'économie, j'aime bien l'information économique, hein. Mais aussi j'aime bien les faits de société, géostratégie, etc. Je n'ai pas vraiment une information type. En tant que sportif, j'aime bien aussi consulter, écouter, regarder le sport.
Quel type d'informations aimez-vous écouter et lire ?
Moi, je suis journaliste littéraire. En disant que je travaille pour un magazine qui s'appelle Le Magazine Littéraire, je pense que c'est assez logique. Je suis journaliste culturelle et encore plus spécialisée sur les bouquins, en fait. Donc, du coup, je lis des livres que les éditeurs m'envoient et ensuite, soit j'en fais des critiques, soit j'interview les auteurs, soit je regroupe les livres et j'essaye de faire quelque chose de plus thématique. Forcément, l'actualité que je suis, elle est culturelle. Après, je m'intéresse beaucoup aussi au théâtre, à la danse, au cinéma.
S'il s'agit d'une information, je vais apprécier d'apprendre des choses sur des informations culturelles, parce que le monde culturel m'intéresse beaucoup. S'il y a un film qui sort, ou s'il y a un spectacle qui est joué, de théâtre, de danse contemporaine notamment, j'aime bien être informé de tout cela. De manière générale, en fait, j'aime bien les informations en général. Être informé. J'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde, j'aime bien savoir ce qui se passe dans le lycée, j'aime bien savoir ce qui se passe dans la région d'Espagne où nous vivons, dans la ville où nous vivons. Je dévore l'information. J'aime beaucoup ça.
Avez-vous conservé le souvenir d'une information qui vous aurait marqué ?
Moi, je me souviens, c'était 89, la chute du mur de Berlin. Mais même quand j'étais petit, j'ai encore des souvenirs de retransmission de la fin de la guerre du Vietnam. Donc, ça devait être en 74-75 aussi, du génocide Khmer à la fin des années 70 au Cambodge. Ça, c'est quand on est petit, ces informations nous marquent beaucoup.
Ça va plutôt être quelque chose que j'ai particulièrement suivi ou que je vais suivre. Aussi des manières nouvelles de faire de l'information, mais avec le mouvement des colleuses, par exemple. En France, il y a eu des militantes qui ont mis sur les murs des informations qui donnaient des statistiques sur les violences de genre et sexuelles, en disant « une femme meurt tous les temps de jours sous les coups de son compagnon », en disant « toi, on t'oublie pas », et des choses comme ça. Et ça a été pas mal relayé dans les médias, et ça a fait l'objet d'ailleurs récemment d'un documentaire qui vient de sortir, et d'un livre. Donc voilà, c'est une nouvelle manière de faire de l'information en critiquant le fait que les médias vont pas parler de ces sujets-là. Et ensuite, ça permet à l'information d'être déclinée de plein d'autres manières. Et maintenant, voilà, on a un film, un livre.
Malheureusement, oui. Peut-être deux informations. Les attentats qui ont touché Charlie Hebdo et le Bataclan. Ça a quand même été un grand cataclysme. Et ça a touché énormément les Français et puis le monde. Et peut-être un événement... C'est bien sûr aussi les attentats des tours du 11 septembre. Parce que les images passaient en boucle et au bout d'un moment, c'était très difficile d'oublier ces images. Ces avions qui s'écrasent sur ces tours et puis ces personnes qui tentent d'échapper à l'effondrement des bâtiments sur eux. C'était des images très marquantes.
Et quel sujet pensez-vous que les médias devraient traiter davantage et pourquoi ?
Je pense que les médias devraient approfondir plus pas mal de sujets. Toujours pas donner un seul point de vue. Alors, les sujets, on voudrait toujours en savoir un petit peu plus sur la société, la sociologie et aussi la politique, c'est important.
Tout ce qui est violence de genre et violence sexuelle, c'est un sujet qui mériterait d'être plus abordé. Dans un autre registre, je pense que l'écologie, c'est pas un sujet qu'on aborde suffisamment parce que c'est peut-être un sujet, je sais pas, qui nous renvoie à notre propre culpabilité de personnes qui n'agissent pas assez ou de personnes qui ont des modes de vie qui ne sont pas parfaits, mais voilà, on est à la fois responsable et en même temps c'est pas entièrement de notre faute, on n'a pas choisi la société dans laquelle on vit. Mais du coup, je trouve que c'est des sujets qui sont pas assez abordés, peut-être parce qu'ils sont pas assez vendeurs, et ça gagnerait à nous sensibiliser davantage si on en entendait plus parler.
Je trouve que, plus que donner mon avis, je pense que c'est plutôt les citoyens eux-mêmes qui devraient leur écrire, en l'occurrence, et de dire ce qu'ils voudraient que les médias traitent. Parce que les médias font des conférences de presse, ils s'informent évidemment des fils d'actualité, ils savent ce qui fait l'actualité, mais si les citoyens veulent que les médias soient proches d'eux ou traitent de problèmes ou de questions qui les concernent, ben ce serait peut-être aux citoyens, aux citoyennes, aux jeunes notamment, d'aller voir les médias qu'ils écoutent, qu'ils lisent ou qu'ils consultent pour leur demander de traiter des sujets. Pour conclure cet entretien, je tenais à vous dire que je considère vraiment que bien s'informer, ça s'apprend. Il faut vraiment que les jeunes sachent ce qu'est une information, connaître son circuit de fabrication, s'interroge sur la source, notamment pour des jeunes qui souvent s'informent à partir de TikTok ou d'Instagram, qui a produit l'information que l'on regarde ou que l'on consulte. Et surtout, qu'est-ce qu'un média ? Tout le monde ne produit pas de l'information. Être journaliste, c'est avoir fait des études, c'est avoir vérifié ses sources, c'est les avoir confrontées, c'est permettre la pluralité des opinions et favoriser le pluralisme des médias. Le média citoyen, c'est bien, mais il est important que les élèves sachent que c'est aussi un métier et une vraie profession, en réalité.
Merci beaucoup
pour nous avoir accordé cette interview et à bientôt.
À vous et bonne continuation.
Merci.
Place à notre actualité. Projet ADN, voici une belle occasion de découvrir le monde à 16 ans.
Un programme d'échange ADN. Des élèves volontaires de seconde partent étudier dans un lycée français à l'étranger pendant quelques semaines. En solo, chaque élève suit ses études tout seul dans le lycée de son binôme. En duo, ils se retrouvent en même temps dans le lycée de l'un des deux. Dans notre lycée, à Barcelone, ce programme est aussi proposé aux élèves. Juliette nous explique ses motivations. Dans quel pays aimerais-tu partir ?
Surtout des pays européens non francophones. J'aimerais vivre quelques semaines en immersion totale, pouvoir en apprendre davantage sur une culture très différente de la mienne.
Duo ou solo ?
Duo. Le partage de cet échange avec une autre personne me semble très enrichissant d'un point de vue social.
Pourquoi veux-tu participer à cet échange ?
Ma principale motivation, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, découvrir un autre pays tout en poursuivant mes études. C'est une occasion unique qui me sera sûrement très utile à l'avenir. J'aimerais aussi profiter de cette chance pour améliorer mon niveau en anglais.
Comment espères-tu vivre cette expérience ? Qu'as-tu prévu pendant ce séjour ?
Ma priorité est bien sûr les études. Je pense aussi visiter la ville et le pays où je vais séjourner, car ce serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Grâce à cet échange, je voudrais découvrir de nouvelles manières de m'organiser et de mieux gérer mon temps de travail.
Comment concilier rattrapage des cours dans ton lycée, mais vivre toutefois une expérience enrichissante ?
J'espère ne pas prendre beaucoup de retard. Peut-être aurais-je déjà travaillé dans mon lycée sur certains chapitres ? Je pourrais les réviser à l'occasion de cet échange. Je pense m'avancer à l'aide des manuels pour ne pas avoir de lacunes à mon retour. Les vacances d'été me seront sûrement très utiles pour approfondir mes connaissances sur ces cours et je serai ainsi prête pour la classe de première.
Vous disposez d'une grande maturité, vous aimez découvrir de nouvelles cultures, vous êtes capable de vous adapter à un nouvel environnement, vous n'avez pas de grandes difficultés scolaires. Le programme d'échange ADN est fait pour vous.
Mais pourquoi Barcelone devrait-elle figurer absolument dans vos choix ? Vous êtes intéressé par l'architecture moderniste ? Ça tombe bien, la Sagrada Familia et la Casa Batlló vont vraiment vous enchanter. Vous aimez plutôt l'architecture contemporaine ? Alors, l'hôtel W ou la Torre Glorias vous en mettront plein les yeux. Vous aimez les promenades ? Le Parkway et le château de Montjuïc sont sûrement faits pour vous. Ce n'est pas pour rien que Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne. C'est enfin une destination idéale pour une immersion linguistique dans une région où l'on parle à la fois le castillan et le catalan. Le lycée français de Barcelone vous accueillera les bras ouverts dans le cadre du projet ADN. Une grande occasion pour vous, élèves de seconde, de voyager, de découvrir le monde et de tisser des liens avec votre binôme et ses proches.
COP27. Un bilan décevant. Les espérances des jeunes du LFB en matière du développement durable.
Au micro, Jeanne pour la COP27.
Un terrain d'entente a été trouvé par les participants de la COP. Cependant, les pays pleuvent de reproches par rapport au manque de décisions prises. Il faudrait réduire drastiquement les émissions de CO2. La principale avancée de cette COP est la création d'un fonds pour les dégâts causés par les catastrophes naturelles dans les pays émergents, réclamé depuis des années par les îles des Caraïbes, menacées par les cyclones et la montée des eaux. Cependant, cela ne fait pas oublier le manque de mesures prises à l'encontre des émissions de gaz à effet de serre. Quelles autres mesures ces pays auraient pu prendre ?
Poursuivons notre magazine avec les infos insolites présentées par Jean-Jacques Michelini et Cyril Duchâteau.
Vous écoutez la web radio du LFB. Poursuivons avec le sport. Un tournoi de foot pour concurrencer la Coupe du Monde au Qatar. La Russie, l'Italie, le Chili, la Colombie, l'Algérie, la Chine, l'Inde ou encore le Pérou se sont réunis pour lancer leur propre événement. De leurs échanges, une nouvelle compétition est née. La Coupe de la Génération Z. Pour la Russie, la priorité est la transition énergétique. Notre Coupe du Monde aura un impact faible sur l'environnement, aurait déclaré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Avec des températures très basses en hiver, il est inutile d'installer la climatisation, déclare même un spécialiste. Le ministre de la Santé russe affirme « L'air frais et vivifiant sera vraiment bon pour les athlètes ». Autre nouvelle surprenante, le chef du Kremlin a décidé d'ouvrir les jeux torse nu.
Un leader qui n'ouvre pas la Coupe du Monde sans chemise n'a pas de cœur. Mais celui qui ne le fait pas en adoptant un ours n'a pas de tête.
La Coupe se déroulera en décembre dans la zone de Kolyma, en Sibérie.
dans les goulags des chambres attendent déjà les footballeurs.
Selon les autorités locales,
Ursula von der Leyen s'indigne.
Leur empreinte carbone et leur système d'isolation ne respectent même pas les accords de Paris.
Les émissions carbone de goulag compensent largement celles qu'aurait émises l'Europe si elle avait acheté le pétrole russe,
répond Monsieur Poutine. On n'a déploré aucun mort par insolation durant la construction des stades dans l'Est sibérien.
La vodka sera l'unique boisson et le borsch l'unique plat servi dans les lieux de restauration des fanzones.
Des millions de personnes attendent désormais avec impatience que ce grand événement ait lieu.
Merci beaucoup de votre attention. C'était Jean-Jacques Michelin
et Cyril Duchâteau.
Continuons avec notre micro-trottoir réalisé par nos journalistes Claudia et Almudena.
Sur quel support t'informes-tu et pourquoi ?
Je m'informe sur TF1 et c'est mes parents qui choisissent le support.
Mes parents, ils regardent TV5 Monde. Moi, je m'informe. En fait, j'ai une enceinte dans ma chambre qui s'appelle Google. Et en fait, quelquefois, je lui demande ce qui se passe dans le monde quand j'ai des questions. Et quelquefois, le matin, quand je lui dis bonjour ou quelque chose comme ça, elle me répond aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Katy Perry ou de quelqu'un comme ça. Et sinon, mes parents, ils s'informent sur le téléphone et ils ont choisi ça parce que, ça dit beaucoup de choses. Et comme nous, on est français, ça parle de la France, de tout ce qui se passe dans le monde.
C'est souvent Google, cette application où on peut trouver le plus d'informations ou sinon sur Siri. Google, c'est une application et c'est plus dans celle-là qu'on peut trouver des informations ou des réponses à toutes nos questions. Ou Wikipédia ou un truc comme ça.
Est-ce que tu vérifies quelquefois s'il y a une information que tu as vue ou...
Oui, parfois oui.
Je m'informe sur Le Monde parce que j'aime bien et je regarde Le Quotidien à la télé parce que c'est drôle.
Moi je vais dire Russia Today.
Je regarde pas d'infos sur TikTok, Insta et donc voilà.
Je m'informe sur Twitter, sur Russia Today. Je m'informe aussi dans des médias occidentaux de type Le Monde, Le Pays, des médias espagnols, mais voilà.
Quand as-tu entendu parler d'actualité la dernière fois et quel sujet t'a le plus impacté ?
La dernière fois que j'ai regardé ça, ça fait très longtemps, c'était quand il y avait le coronavirus. Et le truc qui m'a plus impacté, c'était quand j'ai vu la forme du coronavirus parce qu'elle était... on la voyait pas dans la vie réelle, c'était pas visible à l'œil nu, voilà.
C'était hier soir et j'ai entendu... ce qui se passait en France sur le coût de l'électricité et l'inflation.
C'est la Coupe du Monde, hein, très clairement.
C'est le scandale de FTX, à mon avis, avec l'argent qui partait des États-Unis.
Hier, en classe, notre prof de maths nous a expliqué qu'il y a eu un attentat aux États-Unis envers la communauté LGBTQ+. Et ça m'a beaucoup touchée, puisque en 2022, ça continue.
Comment vous assurez-vous que les infos que vous voyez sur TikTok Insta sont vraies ? Alors, je ne regarde pas TikTok Insta, parce que TikTok est une perte de temps, et Insta est une perte de temps plus bien déguisée. Donc, je ne regarde aucune de ces deux sources-là. Merci beaucoup.
Entracte musical avec Théa.
Bonjour Théa.
Bonjour.
Quel morceau tu vas nous interpréter ?
Je vais vous jouer Comptine d'un autre été dans le film Amélie Poulain.
À toi de jouer. Bonjour Théa, on vient d'entendre ce merveilleux morceau d'Amélie Poulain. Depuis combien de temps tu joues au piano ?
Je joue au piano depuis CM2, donc ça fait 5 ans.
Que ressens-tu lorsque tu joues du piano ?
Jouer du piano, ça me permet de m'évader. C'est comme une des seules choses que je peux produire et ça fait du bien de pouvoir produire quelque chose.
Est-ce qu'il y a un style de musique qui te plaît plus que d'autres ?
Moi, j'aime bien jouer du classique et en particulier Verdi. Parce que je trouve que ce sont des très belles musiques avec beaucoup d'émotions et que quand on les joue, l'émotion, elle se ressent au niveau des spectateurs et même au niveau personnel.
Merci Théa.
Merci.
À propos du piano du lycée, voici Guy Sabatier qui nous raconte sa belle histoire.
Le piano du lycée qui est dans le hall, c'est un Bechstein, c'est un piano allemand. On ne sait pas trop en quelle année il a été fabriqué, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a été fabriqué à Berlin. Alors, pourquoi il est au lycée français ? En 1946, donc octobre. À cette époque, les rentrées, ce n'était pas en septembre, c'était en octobre. Ils avaient un mois de plus de vacances. En octobre 1946, M. Dravet, le proviseur de l'époque, reçoit un communiqué de l'ambassadeur de France à Madrid, qui lui indique que les alliés, dirigés par les Américains, présents à Madrid à cette époque-là, font pression sur Franco pour que tous les biens publics, donc écoles, institutions, chambres de commerce allemandes, donc ayant appartenu aux nazis, doivent être confisqués par les alliés. C'est donc le gouvernement américain qui force Franco à prendre cette mesure-là, et donc le permettre, parce que Franco ne voulait pas le permettre. Et donc en 1946, M. Dravet reçoit donc l'ordre d'aller faire l'inventaire de tous les biens dans les deux écoles allemandes qu'il y avait. Donc il y avait l'école allemande, c'était à la Calle Moya, là où aujourd'hui il y a l'Institut français, c'est le même espace. Et il y avait l'école primaire, Muner, qui à l'époque n'était pas une école primaire, c'était une résidence de jeunes filles étudiantes allemandes à Barcelone. Et donc M. Dravet, il y a d'ailleurs dans les archives en bas, une liste écrite à la main, et c'est l'écriture de M. Dravet qui fait la liste et l'inventaire de tous ces biens-là. Et dans l'inventaire, il y a le piano. Donc c'est pour ça que nous avons le piano qui appartenait donc à l'école allemande et qui est précieux puisque c'est un objet vraiment fantastique. C'est un Bechstein, il ne faut pas oublier. Et après, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en SVT au quatrième étage, il y a un squelette. Ce squelette, c'est aussi une ancienne propriété de l'école allemande. Sauf que c'est un vrai squelette. C'est un vrai être humain. Voilà, ça vous a plu ?
Merci pour votre écoute. Merci à toute la classe, à nos professeurs, à Clarisse, à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à notre magazine, Le Grand Direct de l'AEFE.